Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé qui sera en quatre parties cette semaine avec notamment le film Les Miens qui sort mercredi dans les salles. Roche Dizem et Maïwenn seront nos invités exceptionnels pour en parler dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé consacrés eh bien, à la dernière reine de Tahiti qui débarque ce soir sur France 2. Francis Bianconi, le créateur et co-scénariste de cette fiction, sera avec nous en ligne, ainsi que le beau Terence Tell. Également. Nous aurons le plaisir également de parler de la mini-série L'Homme de nos vies pour M6. Élodie Frégé, Flore Bonaventura, Jonathan Zakaï seront notamment avec nous, ainsi que la co-créatrice et scénariste également de cette mini-série Événement. Et puis en fin d'émission, ce sera aussi L'Événement. Le film vient de sortir dans les salles. Reste un peu, c'est le nouveau film de Gad Elmaleh qui sera notre invité exceptionnel en fin d'émission.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, le film Les Miens sort mercredi dans les salles. Le nouveau film de Roche Dizem qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Acteur et réalisateur, bonjour Roche Di.
Bonjour à vous.
Merci d'être là. Elle était là pour Police. C'était son film là, il y a quelques années. On a eu la chance de la recevoir. C'est Maïwenn qui est avec nous. Bonjour Maïwenn.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est avant tout que c'est vraiment une histoire de famille, une histoire familiale, avec bah, des fois c'est haut, c'est bas. Là, on est un peu dans un bas, où Riyad est confronté à son frère qui, après un traumatisme crânien, change complètement de comportement et va s'amuser à dire tout simplement les quatre vérités, tout ce qu'il pense, absolument sans filtre. Ça donne des moments assez cocasses et des moments assez dramatiques des fois aussi pour la famille. Comment est venue cette idée déjà, Roger?
Ben, comme vous l'avez évoqué, grâce ou à cause plutôt de cet accident qui est arrivé, qui est survenu à mon frère dans la réalité et qui effectivement a eu pour conséquence de lui enlever tout filtre social. Et comme vous l'avez dit juste avant, effectivement, il a commencé à formuler ses quatre vérités, mais de façon assez agressive et assez brutale. Et ça a créé un séisme au sein de ma famille. Et quand j'ai raconté ça autour de moi, effectivement, ça a provoqué à la fois un choc, mais aussi un rictus. On sent bien que ça faisait rire les gens d'être confronté à quelqu'un qui dit ses quatre vérités. Et parfois des vérités qui sont évidemment jamais bonnes à entendre, mais qui sont criantes d'inspiration réelle. Et l'idée d'en faire un film m'est vite venue à l'esprit, aidée en cela par mon producteur. Et c'est pour ça que je suis allé démarcher Maïwenn pour lui demander de m'aider à écrire ce film.
Parce qu'il a été écrit à quatre mains, hein, pour le spécifier, c'est vous deux qui l'avez écrit.
Mais oui, voilà. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce film. Mais ensuite, il y a un thème qui nous a échappé. C'est le thème de la famille dans toute sa splendeur, dans sa dimension même philosophique, que ça implique de raconter la famille. D'abord, à travers ce clan qui raconte aussi 50 ans d'histoire. C'est ça aussi une famille, des frères et des sœurs qui vivent ensemble, qui se connaissent et qui s'aiment depuis 50 ans, mais aussi d'un point de vue sociétal sur le rapport à la vérité, à l'échange, à nos places, les uns et les autres au sein de la société. Les parcours, aussi différents soient-ils, entre un frère qui est devenu chauffeur de taxi, l'autre qui est au RSA et l'autre qui est devenu une vedette de la télé. C'est aussi une forme de projection, un reflet de notre microcosme.
Il y a une sorte de fantasme aussi, quand même, où dans une famille, toutes les vérités ne sont pas toujours forcément bonnes à dire, on ne veut pas blesser. Et c'est un peu de l'ordre du fantasme aussi de sortir un peu les quatre vérités de ce qu'on pense à tous les membres de notre famille. C'est des choses qu'on n'ose pas. Alors quand on voit quelqu'un dans une famille qui le fait, c'est un peu, effectivement, un peu de l'ordre du fantasme pour peut-être beaucoup d'entre nous.
Mais surtout, ça raconte quelque chose sur la liberté. Parce que quand c'est une commotion cérébrale qui provoque cette attitude, mais on parle de handicap invisible hein, dans ces cas-là, mais quand vous êtes confronté à cette personne et que sa situation évolue, on se rend compte que finalement, le plus libre d'entre nous, est-ce que ce n'est pas celui qui a cette capacité à dire sa vérité avec tout ce qu'il ressent et donc s'émanciper de toute forme de frustration? Finalement, le plus handicapé, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est nous qui sommes formatés, codés pour taire ces mêmes vérités? Je pose la question.
Maïwenn, comment vous êtes répartis un peu les tâches tous les deux à l'écriture?
Pendant un mois et demi, on a travaillé, on se voyait tous les jours et on faisait essentiellement que parler. Parfois, j'avais l'impression qu'il y avait des digressions, mais finalement, les digressions nous ont servi à nous rapprocher, à rigoler. Rojdi me rassurait toujours sur la nécessité des digressions. C'était de toute façon une façon de faire connaissance et je pense que l'écriture est toujours prolifique quand on se connaît bien, profondément. Moi, ce qui m'a séduit dans la proposition de Rojdi, c'était d'accompagner quelqu'un, de le faire accoucher. J'avais la sensation que je devais accoucher quelqu'un et non pas amener ma théorie, mon savoir-faire, etc. C'était parce que j'avais jamais fait ça. Donc moi, j'étais très fragile aussi dans ma position. Est-ce que je vais être capable? C'est quelqu'un d'intimidant, qui a beaucoup d'expérience. Et puis en plus, il arrivait avec quelque chose de personnel. Donc il faut réussir à séduire quelqu'un dans les propositions de fiction qu'on y amène, où je me disais, mais si je suis pas capable de théoriser les résidus de ce qu'il me raconte, je vais le décevoir. Donc je me mettais une très grosse pression dans mon travail avec lui. J'étais un peu la plus rigoureuse des deux, hein. Je vais pas lui faire offense en disant que j'étais la plus rigoureuse des deux, parce que moi j'étais peut-être la plus rigoureuse, mais lui il était la sève hein, des scènes, c'est-à-dire que il est très acteur, il est très comédien. Donc quand il me racontait des scènes vécues, il me les jouait. Et ce qui était génial, c'est qu'il joue tous les personnages. Donc moi, j'essayais de lui dire « Non mais ça c'est génial ». Je n'amenais aucune théorie sur la raison pour laquelle je lui disais « Il faut qu'on garde ça ». Et je ne sais pas pourquoi, il achetait souvent
proposition.
Son enthousiasme des scènes. Parfois, il ne voyait pas trop l'utilité. Je vais vous dire un exemple. Quand il m'a mimé une scène où le frère il va récupérer ses fringues, j'étais bidonnée. Et je me souviens que...
C'est le personnage de Rachid Bouchareb qui s'y colle.
Et je me souviens que j'ai beaucoup dit « Non mais attends, et cette scène, il faut la développer, il faut l'amplifier et tout. » Et j'ai le souvenir qu'il était souvent, en tout cas pour cette scène, assez... dubitatif de la raison pour laquelle on devait la laisser. J'ai aimé qu'ils suivent aussi des scènes qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui finalement contribuent à la grâce de ce film. Et ça, je suis bien placée pour le savoir, parce que c'est pas Rushdie qui va le dire, parce qu'il a le rôle de celui qui doit être humble. Mais moi, je peux me permettre de dire que Rushdie, il a transcendé le scénario. C'est-à-dire que le scénario était mignonnet, je pense. Il n'était pas incroyable. Il était... je pense dans l'anecdote, et lui, en réalisant, en poussant les acteurs, en les poussant le plus libre possible, il a réussi à amener le côté universel qu'il n'y avait pas dans le scénario.
On va parler d'Emma, bien sûr, dans quelques instants, parce que Emma, il y a 3-4 scènes que vous jouez dans le film, des scènes fortes, des scènes longues, avec des tirades aussi assez longues. On va y revenir. Rojdi, on va revenir aussi sur le choix de Samy, qui est absolument extraordinaire dans ce film, Samy Bouajila. Mais on va d'abord écouter la bande-annonce, parce que Les Miens, ça sort mercredi au cinéma. On écoute.
Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue,
4.
Pour ce qui est de l'impulsivité, et la colère, l'agressivité.
Je te baise.
Quoi ?
3.
Pour ce qui est de la tristesse.
6.
Tu te sens vraiment triste ?
C'est un trauma crânien franchement grave.
Il s'est passé quoi au juste ?
C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant.
Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif.
Merci. Combien on te doit ?
150 euros. En chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue.
Bah, je vais prendre ton chéquier, Doudou.
Putain, vous avez décidé de m'emmerder jusqu'au bout, là.
Maman, tonton, là, c'est l'exorciste.
On le connaît plus du tout, là.
Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif.
Elles sont nulles, tes vidéos, et t'es moche.
Voilà, les miens, c'est donc mercredi au cinéma. Samy Bouajila, Mai Wen, Roche Dizem et Rachid Bouchareb également. Il y a du très, très beau monde, en tout cas, dans ce film. Samy Bouajila, il est exceptionnel. Et puis, on dirait vraiment mes deux frères. Il y a une ressemblance en plus à l'écran qui est assez frappante et ça marche mais super bien les deux là.
Mais moi je ne trouve pas qu'ils me ressemblent, mais on nous a souvent, pendant très longtemps, confondus avec Samy. Il y a eu souvent un amalgame de faits entre son parcours et le mien. Il se trouve qu'on a commencé plus ou moins en même temps, il y a de ça à peu près 30 ans. Et c'est un acteur pour lequel j'ai une admiration sans faille. Non seulement dans son, dans la restitution de son travail, mais dans la façon d'aborder ses rôles. Il le fait avec une rigueur et avec un sérieux qui n'a d'égal que son implication. C'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Il a un tel engouement et engagement dans ses rôles que vous ne pouvez qu'être admiratif. Et surtout, le jour où vous avez un rôle à lui proposer, vous savez très bien que vous allez pouvoir vous reposer sur cette expérience-là. Donc, c'est peut-être le seul acteur pour lequel on a écrit le rôle.
Il amène à Moussa en tout cas quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, j'ai trouvé, enfin, je vous ai trouvé en tout cas, ça marche vraiment bien. Même avec Rachid, toute la famille, ça fonctionne parfaitement en tout cas à l'écran. Il y en a une qui doit se souvenir quand même d'une scène, c'est Anaïd Rozam. On a eu l'occasion de la rencontrer lors du Festival de la Fiction à La Rochelle où elle faisait partie du jury d'ailleurs. Elle en prend plein la gueule dans une scène. Hein. Je crois qu'on peut le dire, elle doit se souvenir de sa scène avec Samy.
Là où c'est d'autant plus troublant pour elle, c'est que c'est des scènes qu'elle a vécues. C'est la seule d'ailleurs qui joue son propre rôle et qui joue des scènes qu'elle a déjà vécues, mais par le passé, mais dans la réalité. Et donc la scène où elle s'en prend plein la gueule, comme vous dites, c'est quelque chose qui la marquera jamais. Et le film est venu aussi quelque part désacraliser aussi ce moment-là et de refermer définitivement la page. Mais elle a eu beaucoup de courage d'accepter.
Mais c'est clair. Mai Wen, on va parler d'Emma. Comment on pourrait la définir un petit peu, Emma? C'est un peu la femme délaissée de Riyad, en quelque sorte. Hein. Il la regarde pas beaucoup, en tout cas.
Ah, il fait croire qu'il la regarde pas, mais il la regarde quand même. Hein. Alors, je joue le personnage d'Emma, qui est la fiancée de Riyad. C'est la seule qui est pas de la famille, mais qui voudrait en être. Donc, moi, j'aime les thèmes qu'il a voulu aborder, c'est-à-dire le non-engagement, toujours la filiale de la célébrité qu'on aborde, puisqu'elle joue une actrice qui n'est pas engagée comme elle voudrait l'être.
Elle fait souvent le tampon entre Riyad et sa famille.
C'est-à-dire qu'elle est dans une position où elle aime quelqu'un qui, au moment où elle l'aime, n'a pas beaucoup de qualité pour être aimé, je trouve. C'est ça que j'aime dans le personnage de Riyad. Il y a un Riyad avant l'accident et un Riyad après. C'est pour ça que j'ai aimé que tous les personnages changent de place, ils changent les pions grâce à l'accident. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant un accident dans une famille, c'est que ça bouge tous les relations internes.
Ça fait bouger les lignes, tu as raison. Mais ça raconte aussi le fait que parfois, d'aimer ne suffit pas. Encore faut-il le démontrer, le prouver, le formuler. Et c'est en ça où Riyad est handicapé. C'est son handicap à lui. C'est dans sa façon de faire exister l'autre. C'est ce qu'elle dit le personnage d'Emma à un moment. Elle lui dit bah, tu te rends compte que je ne suis plus là quand c'est trop tard. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi un autre moment dans le film que j'ai envie de citer. C'est quand je dis à mon frère « je vous aime » et il me répond « ça ne se voit pas ». Ça aussi, c'est intéressant. Et ça raconte aussi que ça ne suffit pas de sentir les choses. Il faut inclure l'autre et lui faire vivre ce que tu ressens. Et ça demande à un moment de franchir cette étape-là qui permet de partager avec l'autre et de donner à l'autre. Et ce personnage, c'est ce qui lui manque. Et le personnage d'Emma est là pour le lui rappeler. C'est-à-dire qu'à un moment, sans vouloir dévoiler ou spoiler, c'est une personne qu'il aime profondément, mais qui peut lui échapper. Et quand il s'en rend compte, ça va aussi provoquer chez lui une attitude différente dans la mesure où il a toujours pensé que son statut suffisait à provoquer l'amour des siens. Et donc on est dans ce moment charnière.
Oui, si je peux rajouter encore quelque chose, c'est que le personnage de Riyad au début du film, il aime mal. Voilà, c'est que avec l'expérience, moi je retiens que souvent il y a plein de gens qui pensent aimer et que le simple fait d'aimer pense que ça peut suffire pour faire durer une relation, mais il y a des gens qui aiment mal. Et ce que j'aime avec Riyad et le couple qu'on fait à l'écran, c'est que grâce à Moussa, le personnage de Riyad va se bonifier et va se mettre à comprendre ce que c'est que bien aimer.
Comment on se sent à 2 jours de la sortie du film, avec un film si personnel qui va maintenant appartenir au public dans 2 jours?
Ouais, les miens vont devenir les vôtres. C'est clair, mais même si on se prépare à ça, c'est toujours un sentiment un peu étrange, parce que c'est un film qu'on accompagne pendant 2 ans, hein. C'est une longue gestation. Quand je dis 2 ans, c'est même plus, parce que on l'a pensé, on l'a écrit, on l'a réalisé, on l'a monté, on l'a présenté, et ensuite quelque part, entre guillemets, on l'abandonne. Mais on l'abandonne à qui? On le laisse entre de bonnes mains, au public, et c'est le public qui va décider finalement de son sort. Mais ce que j'aime aussi dans le cinéma, c'est qu'un film a plusieurs vies. Il a sa vie en salle, mais ensuite il a sa vie en télé, en DVD,
en VOD,
en rétrospective. J'adore l'idée que d'abord, ce qui est inscrit dans la pellicule est indélébile et pérenne. Donc ce film fera partie notamment de tout ce processus-là que j'aime et qui me donne envie d'en faire d'autres, de continuer. Voilà.
Alors moi, c'est la première fois que je vis un film comme ça en étant si proche et pas la réalisatrice. J'ai autant envie qu'il marche comme si c'était mon film. Ben, je me sens fragile parce que le cinéma français est fragile, mais c'est pas le film qui me rend fragile, parce que le film, je suis extrêmement fière. Je suis même pas que seule dans ma fierté, c'est-à-dire que je vois bien la réaction des gens dans les salles, les questions qu'on y pose. C'est un film qui a la grâce, c'est un film qui n'agresse pas le spectateur, qui va pas le chercher à des endroits de provoque, etc. C'est un film humble.
Les miens, c'est donc mercredi au cinéma. Merci Maïwenn, merci Roche Dizem d'avoir été avec nous pour en parler, et on se dit à très bientôt, en tout cas pour d'autres aventures, j'espère. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci, au revoir.
La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire.
Je t'ai jamais vu comme ça de ma vie.
Ah, tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile?
T'as ton petit frère qui est inconscient, encore une fois c'est moi qu'on appelle.
Moi j'aurais pu gérer, mais on me demande rien.
Bah non, on sait qu'il faut pas compter sur toi.
On te dit tous la même chose en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc c'est qu'en plus tu te prives de bons moments.
J'ai besoin de vous, vous êtes ma famille, je vous aime. Ça se voit pas.
J'aurais adoré avoir une famille comme ça.
T'es triste? Sur une échelle de 0 à 6, tu dirais combien?
Allez, la suite de Chute en écoute la télé, c'est dans un instant. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chute en écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute en écoute la télé.
J'ai longtemps parcouru son corps effleuré, 100 fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre. j'ai reçu de ses mains le bonheur ancré dans mon âme. C'est même trop pour un seul homme. Et je l'ai vu partir sans rien dire. Il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie avant l'ombre et l'indifférence, un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je t'en parcours sans corps et fausse, sans voix, sans visage. J'ai trouvé de l'or de mer, quelques étoiles.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé, eh bien c'est ce soir, la dernière reine de Tahiti. Vous allez pouvoir voir Pomare avec évidemment une fiction historique qui va retracer l'histoire de la dernière reine de Tahiti. Aux commandes du scénario, c'est Francis Bianconi qui est avec nous. On va être rejoint dans un instant également par Terence Tell. Bonjour Francis, merci d'être avec nous.
Bonjour Alain, bonjour, merci, un vrai plaisir d'être avec vous.
Alors vous êtes le créateur et le co-scénariste de cette fiction, qu'est-ce qui vous a donné envie en tout cas de parler de la dernière reine de Tahiti et d'une histoire assez méconnue aujourd'hui des Français en métropole notamment ?
Eh bien, c'est le fait d'être à l'origine journaliste et de réaliser des documentaires qui m'a donné l'envie d'élargir le public et de faire en sorte de faire connaître des personnages méconnus ou ignorés de l'histoire, des grands personnages. Et je trouvais que La Dernière Reine de Tahiti méritait un téléfilm de façon à ce que le plus large public, jeune et moins jeune, puisse le regarder. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les documentaires. Donc, de journaliste et de réalisateur auteur documentaire, je suis passé à scénariste. Et c'est comme cela qu'en utilisant le côté du divertissement du film, même en scénarisant, en mettant au moins 80% de l'histoire en réel, mais au moins ça permettait à un plus large public de découvrir des personnages aussi passionnants que La Dernière Reine de Tahiti.
Alors je crois que le tournage a été épique. Adeline en a vu de toutes les couleurs. Il a fallu s'arrêter avec le Covid. Enfin, ça a été très compliqué, repoussé. Est-ce qu'au niveau de l'écriture, il a fallu s'adapter, changer des petites choses? Comment ça s'est passé?
Alors pas tant que ça, il y a une belle coordination avec la réalisatrice Adeline Darrow qui a été vraiment entre vous et moi formidable parce qu'elle fait un travail d'introspection, ça fait plusieurs mois, elle connaissait, elle avait déjà tourné sur Tahiti. Mais nous, on a dû s'adapter, c'est ce qu'on appelle le jour à jour, c'est-à-dire qu'on écrit la trame, on la fait valider, on donne un sens par rapport à la chronologie de timing que exige un tel film, puisqu'on ne fait pas ça sur 2 ou 3 ou 4 heures, on a des contraintes techniques. Mais quand on voit le jeu des personnages, eh bien chaque jour, on adaptait de façon à ce qu'on respecte la chronologie du scénario, mais ça a été quelque chose de bien joué entre Sophie Deschamps, Olivier Doron aussi qui est le co-auteur, et moi-même, on arrivait chaque jour à mettre en place le jour à jour et de façon à ce qu'on adapte bien. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait imaginer ne pas voir à l'image, on le voyait à l'image, donc on enlevait les paroles ou on adaptait les paroles et on faisait en sorte que même les accents qu'on a voulu garder tahitiens soient bien adaptés et que les mots puissent être le plus compréhensible de tous. Ça, c'était très important. Mais tous les jours, on retouchait, effectivement.
Alors, les scénaristes sont pas tous les jours forcément sur le tournage, mais je suis sûr que pour vous, il n'a pas fallu vous prier quand même très très longtemps pour aller évidemment à Tahiti sur le tournage, puisque ça a été vraiment tourné en Polynésie. C'est ça qui est bien.
Oui, mais j'étais sur le tournage parce que je n'étais pas que le co-scénariste. Je suis aussi le producteur artistique. Donc, j'étais en liaison permanente aussi avec les équipes, avec bien sûr notre amie Adeline, et on arrivait effectivement à être présent. Donc, du coup, cette double casquette de producteur artistique et de co-auteur me permettaient d'être là et d'être présent au jour à jour, sachant qu'on était en liaison permanente aussi avec les co-auteurs qui nous permettaient, notamment avec Sophie, de faire toutes ces retouches. Alors donc, imaginez 12 heures de décalage, le peu de temps pour dormir, ouais. Effectivement, c'était assez épique.
Ça n'a pas dû être triste, en tout cas. On va accueillir Terence qui va nous parler justement un peu de son rôle dans un court instant, juste après la bande-annonce. Francis, juste avant de se quitter, les prochains projets sur lesquels vous allez œuvrer?
Alors, j'ai un projet qui touche... C'est un projet dans lequel je rêve, qui touche notre père de la nation, car je suis corse d'origine, et je souhaiterais, je reste encore dans un vœu, écrire une mini, enfin, j'ai déjà préécrit, mais on est sur une mini-série qui touche au général corse Pasquale Paoli pour les plateformes internationales. Donc, c'est là-dessus que je travaille actuellement. Oui, tout à fait.
Bon, bravo Francis, en voilà. Tout cas, merci.
Et puis, je profite de vous remercier et de saluer tous les acteurs qui ont été formidables. Ouais. Et un gros bisou à Terence Tell qui a été formidable aussi.
Oui, vraiment. C'est clair, on va en parler. Je sais qu'on avait eu l'occasion de se voir juste après le tournage. Il avait gardé un très beau souvenir, mais on va l'évoquer avec lui. Évidemment,
même.
On le récupère juste après la bande-annonce. La dernière reine de Tahiti Pomare, c'est donc ce soir à 21h10, juste après Un si grand soleil sur France 2.
Lundi 21 novembre, événement.
Je remplirai mon devoir de reine, pour ne pas apporter de malheur à mon peuple.
Majesté, je mettrai tout en œuvre pour vous faciliter la tâche.
Ne vous inquiétez pas, Brua. Cette reine à la solde des Anglais signera sans difficulté le protectorat.
Il est hors de question que la France impose sa loi à Tahiti.
Tant que tu es vivante, et tant que tu es forte, Tahiti ne cédera pas.
Tahiti est désormais à la France.
Je ne serai ni la prisonnière. Ni l'otage de la France.
L'histoire vraie de la dernière reine de Tahiti. Inédit, lundi 21 novembre à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Ce programme est disponible en audio-description.
Et on continue donc notre coup de cœur avec Pomare, la dernière reine de Tahiti, ce soir sur France 2 avec Terence Tell donc qui nous rejoint. Bonjour Terence.
Salut, comment ça va?
Ben ça va très très bien, écoute, je suis très heureux de t'avoir, on s'était rencontrés, on avait parlé de ce projet en juin dernier, je m'en souviens, où t'étais venu d'ailleurs cet été nous livrer déjà un peu les premières impressions après le tournage. Aujourd'hui quand tu vois le film fini, monté, tel qu'il va être diffusé ce soir, ça te fait quoi?
Ah mais c'est énormément d'émotion, surtout que nous on l'a vu sur une projection, en grand écran, donc c'était encore plus d'émotion de revoir les images... cette magnifique île où on l'a tournée pendant 6 semaines. Voilà, ben moi, le premier film, enfin, la première fois que je l'ai vu en projection, je vous le dis, j'ai pleuré hein, directement. Hein. Moi, ça m'a raillé tellement d'émotions, tellement de souvenirs. Et voilà, j'ai eu la chance aussi d'inviter ma maman et mon petit frère pour la deuxième projection. Et pareil, c'était vraiment des larmes et des larmes. C'est vraiment un très, très beau film.
Est-ce que c'est une histoire que tu connaissais avant? Parce que c'est assez méconnu, on le disait avec Francis il y a quelques instants, mais c'est une histoire assez méconnue en métropole. Et moi, je trouve ça génial et c'est une vraie mission de service public ce soir que de nous faire découvrir cette histoire.
Exactement, en fait, c'est une histoire qui n'est pas du tout connue, qui n'est pas du tout stipulée dans les livres d'histoire. Et en fait, c'est malheureux. C'est malheureux parce que c'est une très belle histoire. C'est l'histoire d'une femme qui dirige son île et en fait qui se bat vraiment pour son peuple. C'est magnifique, c'est une histoire sans pareil. Enfin moi j'ai appris beaucoup de choses et en plus j'ai adoré, j'ai vraiment adoré mon moment passé avec toute l'équipe là-bas.
Alors que j'écorche pas le nom de ton personnage, on va le présenter.
C'est Harry Faïté.
Harry Faïté. Comment tu le définis toi, Harry Faïté?
C'est un peu celui qui épaule la reine en fait, parce que c'est quand même une position quand même qui est compliquée, beaucoup de responsabilités. En fait, Harry Faïté est un peu plus âgé que la reine et a en fait cette expérience grâce à son père et tout pour gouverner. Donc voilà, il est là un peu pour l'aider, pour la soutenir, pour la conseiller, même s'il n'est pas toujours de bons conseils, hein, faut le dire, puisque bon bah voilà, vous allez voir dans le film ce soir, mais il y a quelques passages où voilà, il n'a pas trop assuré le petit Harry Faïté. mais voilà, ils sont très amoureux tous les deux. C'est une belle histoire d'amour aussi, très très beau film.
En tout cas, t'es super bien entouré. Thierry Godard, Bernard Lecoq, Alexia Barlier, Sam Chemoul, Eddie Kelly ou encore bien sûr Tué Adams et Teva Manoï. Et franchement, c'est incroyable ce casting et t'as pas dû t'ennuyer, je pense.
Ouais, mais c'est ça qui est beau en fait, c'est que c'est vraiment un mélange entre acteurs expérimentés et en fait jeunes comédiens. Moi aussi, je me considère quand même comme un jeune comédien parce que c'est pas non plus si longtemps que ça que je suis dans le milieu. Et en fait, tourner avec Bernard Lecoq, hein, notamment, hein, comme tu l'as dit, Bernard Lecoq,
ouais, c'est fou.
C'est un acteur extraordinaire. Ouais. Moi, à chaque fois que je le voyais jouer, et encore plus au cinéma pour la projection, quand j'ai vu Bernard jouer, je me disais, mais c'est un génie, en fait. C'est vraiment, il a ça dans le sang. Et en fait, ça me sert d'exemple maintenant, vraiment. Quand je le vois jouer, je vais regarder le film à nouveau ce soir et je vais regarder le film encore pour revoir Bernard Lecoq jouer, parce que pour moi, c'est vraiment une leçon quand il joue. C'est vraiment, c'est incroyable. Toutes les mimiques qu'il a, tu vois toutes ses expressions et tout, moi, je trouve ça magnifique.
C'est quoi ton meilleur moment sur le tournage?
Écoute, moi, quand j'ai lu le script, dans son entièreté, j'avais qu'une hâte, c'est de jouer la scène de la bagarre. Hein, je vais te dire, sincèrement, moi, c'est... Voilà, moi c'est un peu mon objectif de carrière.
Fallait un peu de cascade, fallait un peu de cascade et de castagne.
Ah mais j'adore ça. Moi je j'adore ça. J'ai toujours rêvé de faire une scène comme ça. Tu sais un peu à la Transporteur ou tu vois où ça se bagarre et tout ou encore dans des Marvel. Là je viens de voir Black Panther il y a pas longtemps. Voilà des scènes où ça se bagarre et tout. Voilà c'est mon rêve. Et donc voilà je l'ai fait mais sur une toute petite scène. Donc là c'était une petite scénette. Ça j'avais hâte de la faire celle-là.
On t'a pas demandé encore à Nguyen qui te fasse clouer au pilori des élèves de l'Institut Auguste Armand, du coup, pour essayer de faire un peu de...
Hein là là. ça aurait été beau, ça. Un petit clin d'œil. D'ailleurs, je fais des bisous à tous mes collègues d'ITC qui nous écoutent peut-être. Je les embrasse très fort.
Ouais, c'est vrai que là aussi, c'est un sacré projet. Et puis, c'est tellement une formidable école pour un jeune acteur de pouvoir être sur une quotidienne comme celle-ci et après avoir des beaux rôles comme on va te voir ce soir, évidemment aussi, dans la dernière reine de Tahiti. Et franchement, voilà, c'est un bonheur de t'avoir, en tout cas avec nous, une fois de plus.
Bien sûr, c'est vrai que c'est formateur. Moi, j'ai toujours dit que j'ai pas beaucoup fait d'école de théâtre. Et pour moi, ITC, c'est mon école, quoi. Enfin, dès la première saison, dès les premiers épisodes, j'ai appris avec différents réalisateurs et c'est comme ça que je me forme au fur et à mesure. Et en fait, grâce à la dernière année de Tahiti, j'ai aussi appris à jouer des choses différentes. J'espère qu'il y en aura plein d'autres projets comme ça qui vont me permettre aussi d'apprendre un peu plus. Parce que c'est ça finalement, la vie, c'est apprendre, on apprend tout le temps finalement.
En tout cas, double dose ce soir de Terence Tell. Et ça va faire du bien. 18h30. Et ici, tout commence, qui se retrouve un petit peu seul au carrefour ce soir, puisque demain nous appartient. Et s'en est allé pour un mois et reviendra le 19 décembre. Plus belle la vie arrêtée aussi. Donc voilà, vous êtes un peu seul en quotidienne avec un si grand soleil, en tout cas, ce soir. Et donc, tu vas encadrer les deux, puisque tu seras juste après un si grand soleil aussi dans la dernière reine de Tahiti sur France 2. Merci beaucoup, Terence.
Merci à toi, merci infiniment.
Et on se dit à bientôt.
Allez, à bientôt, ça marche, à très vite.
À très vite, merci Terence.
Au revoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler de l'homme de nos vies. C'est notre gros coup de cœur télé cette semaine. C'est demain sur M6. Ça arrive avec 4 fois 52 minutes. Vous allez découvrir les deux premiers épisodes. Et on va vous faire une petite spéciale aujourd'hui avec déjà l'auteur de cette mini-série, Alice Vandenbroek, qui est avec nous. Bonjour Alice.
Bonjour.
Le héros, l'anti-héros de cette fiction, mais alors magistral, Jonathan Zakaï, mon cher Jonathan, un habitué de l'émission, quel bonheur de te retrouver.
Bonheur partagé, je te remercie pour cette introduction.
Écoute, franchement, on a été complètement... c'est hyper addictif, c'est une série qui est hyper addictif et on ne sait même pas comment on doit t'appeler comme nom de personnage parce qu'il y en a tellement, on suit vraiment les histoires d'un homme qui essaye de voler des femmes et qui change son identité à chaque fois jusqu'au jour où il y en a une qui va mettre le feu aux poudres et évidemment qui va essayer de le faire tomber, mais voilà, jusqu'à quel point il va essayer de se sortir de toutes les situations, c'est ce qu'on verra au fur et à mesure. Qu'est-ce qui t'a plu en premier, Jonathan, dans ce rôle? On va pas dire toute l'histoire, mais t'as été un peu appelé à la dernière minute.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est un rôle qui est difficile à refuser puisque c'est finalement un acteur, on a envie d'être plusieurs personnages et je trouvais évidemment c'est impossible de refuser un rôle comme ça et un projet comme ça. Je trouve justement l'écriture aussi entre quelque chose d'un sujet assez grave qui pourrait être très traité de manière assez noire et qui en même temps traité avec légèreté. Donc tout ça fait que plus le casting évidemment, le travail avec Fred Bert, tout ça. Donc voilà, ça faisait beaucoup.
Le casting est incroyable, on va évidemment en parler puisqu'on va avoir aussi Fleur Bonaventura et Elodie Frégé qui vont nous rejoindre. Elles sont aussi avec Odile Wilmain et Elena Noguera, sont bien bien accompagnées. Franchement, c'est un très très joli casting. Au niveau de l'écriture, comment ça se passe? Alors moi, ce que j'aimerais avoir un peu justement la vision de l'auteur sur l'écriture, comment c'est venu, comment on est inspiré pour écrire une fiction comme ça. On connaît des gens dans l'entourage qui ont été victimes ou...
Alors déjà, je voulais dire...
merci de dire que la fiction est addictive, parce que je pense que c'est le meilleur compliment qu'on, qu'on puisse faire sur une
série. Pour un auteur.
Voilà, parce que c'est ce qu'on cherche en, en série, à faire, à rendre addict. Comment c'est venu? Déjà, cette histoire est basée sur une histoire vraie, qui n'est pas celle de l'arnaqueur de Tinder, parce qu'il y a beaucoup finalement de serial lovers comme ça, d'arnaqueurs. Donc on s'est d'abord inspiré de la réalité, et ensuite, enfin, la première histoire était américaine, donc effectivement on a travaillé avec nos histoires personnelles, avec ce qu'on entend autour de nous, à la rendre réaliste en France aujourd'hui, quoi, et à rendre ce personnage crédible. Je pense que le défi de l'écriture, c'était vraiment de qu'on y croit. Donc d'écrire des vraies comédies romantiques, d'écrire des vraies histoires d'amour twistées. Enfin voilà, c'était un défi, en même temps le plaisir de mélanger le thriller et la comédie romantique, et de faire en sorte qu'on croit à ces histoires d'amour, et qu'on et qu'à chaque histoire on en profite comme d'une comédie romantique avant d'être pris par l'horreur.
Il y a deux choses qui m'ont frappé. Ça, c'est le talent évidemment de l'auteur, c'est le talent du comédien, et là ils viennent se rejoindre. C'est que ce personnage que tu joues, Jonathan, c'est qu'à chaque face qu'il montre, il est presque attachant. Tu le rends presque attachant, que ce soit à travers l'écriture ou à travers ce que tu y as mis. On s'attache presque à chacune de ces fresques qui va jouer en face ses partenaires. C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on arrive presque à y croire à chaque fois, nous-mêmes, en tant que spectateur.
Bah écoute, dis donc, entre la série addictive et ce que tu viens de dire, je pense que là on est bon. Non, évidemment, après, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus moins convaincus par mon côté attachant, et tant mieux d'ailleurs aussi. Mais voilà, c'est vrai que, en tout cas, je pense que c'est un personnage qui est ambigu, on va dire. Parce que de toute façon, même quand tu arnaques, je pense que tu as des moments de vérité, tu vis quand même des moments de sincérité. Il y a même peut-être des moments où ça t'échappe complètement, et c'est peut-être ce qui va se passer pour lui. Et donc voilà, et surtout, je crois que c'est un personnage qui sait reconnaître en chaque femme sa faille et qui devient
faiblesse,
et qui devient quelqu'un d'autre en rapport avec qui il est, en fait.
Qui s'adapte à un caméléon, en fait.
Voilà. Mais qui s'adapte à la voilà. C'est pas lui qui, enfin, même s'il change de job à chaque fois, je crois que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est surtout de s'adapter à la personne à qui il est en face et devenir différent par rapport à cette femme-là. Ce qui le rend attachant, c'est peut-être, j'espère en tout cas, on a essayé de, et ça c'est très bien dans l'écriture, parce que là, on m'a dit tout à l'heure, on commence sur une comédie romantique où on se dit peut-être c'est un serial love séducteur, juste voilà. Et au fur et à mesure, bon, le voilà.
Là, je crois que ça va beaucoup plus loin que ça.
Ça arrive de plus en plus, ouais.
Alors ça démarre par un mariage, hein, celui de Flore, et le personnage de, parce que alors, comme ça il change de prénom avec chacune des femmes, et Amaury, voilà, avec Flore. Et évidemment tout va basculer au fur et à mesure, hein, parce que il va peut-être commettre l'erreur de trop avec le personnage de Dilma, en essayant de lui voler des milliers d'euros, et elle va rien lâcher jusqu'au bout. Parce qu'elle va retrouver certaines de, on va dire, de ses compatriotes qui se sont fait elles aussi arnaquer, dont celle avec qui il est actuellement. Donc ça devient compliqué pour lui, et il va essayer de déjouer tous les pièges finalement.
Oui, mais c'est des personnages qui mettent du temps à être désarçonnés, qui sont, je pense, vraiment ils sont vraiment dans une réalité X, quoi, enfin une autre réalité. Donc je crois qu'avant d'avoir vraiment peur, il y a aussi du culot, quoi, à être qui il est, à faire ce qu'il fait. Donc ouais, mais là il est tombé sur, en effet. Mais c'est aussi proche d'ailleurs de ça. C'était proche de du personnage aux États-Unis. Je crois que les femmes se sont ralliées aussi, si je dis pas de bêtises. Il y a vraiment eu un parallèle aussi avec la vraie histoire là.
Est-ce que alors? Je vais être honnête, Alice, hein. J'ai vu les trois premiers épisodes, j'ai pas voulu voir le quatrième avant qu'on se voit et qu'on fasse cette émission ensemble. Alors d'une, pour pas que j'en dise de trop, mais surtout aussi parce que, voilà, est-ce que la fin est bouclée? Est-ce qu'on peut-être espérer une suite? Est-ce que vous avez envie d'écrire, en tout cas, dans ce sens-là?
Une suite est toujours possible. On a quatre femmes qui se sont
liguées,
unies dans l'adversité. Et qui peut arriver d'autres aventures. Et on a un homme qui n'a pas dit son dernier mot et qui n'est pas prêt de se repentir non plus. Donc tout est possible. Je pense que tout est encore possible.
Donc la fin est peut-être ouverte, à moitié ouverte en tout cas. Ben, écoute, moi j'espère que ça va rencontrer vraiment son public et que vous allez être séduit par cette mini-fiction. Quel a été le meilleur moment pour toi, Jonathan? Est-ce qu'il y a eu une scène particulière, une anecdote à nous raconter sur ce tournage?
Spontanément, je dirais quand même aller tourner sur l'île de la Réunion. C'était quand même, il y a des paysages exceptionnels, donc c'était merveilleux. C'était un peu des vacances quand même aussi, les lagons, tout ça. Donc voilà, ça c'était merveilleux. Et puis c'est Fred Berthe aussi, le réalisateur, qui je dois dire, quelqu'un de vraiment de merveilleux à vivre au quotidien, et qui a mis une ambiance sur ce plateau, je trouve, qui était super conditions de boulot, de travail, quoi. Donc c'était un bonheur vraiment.
On va passer la parole à deux des femmes que tu arnaques dans cette série avec Fleur Bonaventura et Elodie Frégé qui joue une chanteuse dans cette série. On va parler évidemment de leur personnage avec elles. On va continuer à parler de l'homme de nos vies. C'est notre événement coup de cœur série de cette semaine à ne pas manquer sur M6. On va écouter la bande-annonce. Merci beaucoup Alice et merci Jonathan. On se dit à très vite.
À très vite. Merci beaucoup à toi.
Merci.
Ça dépend, vous allez où ?
L'Élysée.
Montez, je vous emmène.
Oriane, acceptez-vous de prendre pour époux Amaury Antoine Henri Béliard, ici présent.
Oui.
Moi non plus, j'aime pas qu'on mette la corde au cou d'habitude. Avec toi, c'est différent.
Ah, vous êtes canon. Pardon.
Vous vous laissez partir 80 000 euros comme ça sans nous prévenir.
Officiellement, c'est vous qui avez validé les transactions sur votre téléphone. Il n'y a pas de délit.
Anna est là. Je pense qu'on s'est fait escroquer par le même homme.
Anna est morte. Elle s'est suicidée.
Qu'est-ce que vous voulez ? De ce type, c'est pas du tout celui que vous croyez.
Camille, c'est mon ex. Ça fait 3 ans qu'elle me traque et qu'elle m'invente n'importe quoi pour me pourrir la vie.
Tu vas pas continuer à faire ça à d'autres femmes. Je vais te faire tomber. C'est pas une menace, c'est une promesse.
Oui ! Tu bouges plus !
Continue à parler de l'homme de nos vies. Après Jonathan et Alice, on est rejoint par deux comédiennes qu'on aime profondément dans cette émission. Une qui est chanteuse aussi d'ailleurs, Elodie Frégé. Bonjour Elodie.
Bonjour.
Merci d'être là. Fleur Bonaventura également, qu'on est très heureux de retrouver. Bonjour Fleur.
Bonjour.
Merci d'être là. Toutes les deux, on va continuer à explorer un peu l'univers machiavélique de ce serial lover, comme on l'a surnommé à l'instant, avec Jonathan. On va présenter vos personnages à toutes les deux. Alors Elodie, tu joues une chanteuse, Iris, sur lequel évidemment le personnage de Jonathan va tenter de jeter son dévolu aussi et va tenter de l'arnaquer évidemment.
Évidemment, mais il n'ira pas très loin puisque mes copines qui ont déjà été approchées par le malfrat s'empressent de me prévenir que ce n'est pas quelqu'un de bien. Voilà, et finalement à elles quatre, ces femmes vont finir par faire tomber le personnage de Jonathan.
Vont-elles arriver en tout cas à le faire tomber ? C'est ce qu'on attend tous quand on regarde cette série. C'est ce qu'on disait, c'est hyper addictif quand vous avez lu le scénario. Est-ce que à un moment donné, vous vous êtes arrêté, vous l'avez lu vraiment jusqu'à la fin, vous aviez envie de savoir en tout cas ce qui allait se passer jusqu'au bout, Flore ?
Moi, je l'ai lu tout d'un coup, évidemment. Franchement, je pense qu'on a envie de savoir ce qui va arriver à cette énergumène-là. Et on est complètement prise aussi par justement la sororité qui se passe entre ces quatre femmes. Ça fait du bien de voir ça dans un scénario. Donc non, moi, je l'ai dévoré.
Pareil, pourtant ça m'arrive pas souvent. J'ai commencé à lire et je voulais savoir. Et je trouvais ça plutôt pas mal écrit parce que parfois les scénarios, moi qui aime notre langue française, j'ai du mal à me projeter. Je trouve que les images rendent souvent bien plus poétiques et beaux et cinématographiques que ce que je lis. Et là, j'étais mais suspendue à l'intrigue et puis je trouvais qu'il y avait aussi pas mal. Tu ressentais l'humour. Tu ressentais la frustration, tous les sentiments étaient très bien décrits en fait dans le scénario, ce qui nous rapprochait très fort de chaque personnage en fait, plus intensément.
Alors l'histoire commence évidemment par un mariage qui va mettre le feu aux poudres, hein, puisque le marié va s'en aller précipitamment, prétextant qu'il s'en va pour le travail. Donc ça commence par ton mariage, Flore, avec ce personnage. On va présenter un peu ton personnage à toi. Comment tu le définirais ?
Oriane, c'est une jeune femme qui a vécu des choses difficiles. Elle a été, je pense, marquée par le décès de sa mère, qui est quand même morte d'une maladie psychiatrique. Donc c'est une jeune femme qui est déjà très fragile et qui a peur d'avoir la même maladie de sa mère et qui va se transcender et un peu se découvrir face à ce drame un peu qu'elle tombe de 1000 étages avec en découvrant le vrai visage de son mari, et c'est ce qui va lui apporter une force qui, je pense, lui manquait avant dans sa vie.
Et c'est la faille qu'il va exploiter d'ailleurs en lui faisant croire qu'elle aussi est malade de façon psychiatrique, va même aller jusqu'à la faire enfermer. Enfin, c'est un truc incroyable, et c'est vrai qu'on se demande jusqu'à la fin quand c'est qu'il va tomber. Alors Iris, raconte-nous Elodie.
Oui, alors Iris, c'est une chanteuse qui est sur le bon chemin pour avoir pas mal de succès, qui en a déjà pas mal, qui est accompagnée dans la vie par un monsieur plus âgé qu'elle, qui la manipule un peu aussi, qui manipule un peu ses contrats et dont elle veut divorcer, puisque ça ne se passe pas très bien entre eux.
Parce qu'elle est en couple avec son manager, enfin en couple. Lui croit qu'il est encore plus en couple qu'elle d'ailleurs.
Disons que lui, il a décidé que c'était sa poule aux œufs d'or,
et aussi sa chose, quoi. Donc elle veut s'extirper de cette chose-là. Elle a envie de reprendre, de retrouver son indépendance. Et puis ils ont aussi ce projet d'avoir un enfant qui échoue depuis des années. Donc je pense que ça les a un peu séparés. Donc c'est une histoire qui se finit, quoi. Je pense qu'à la base, elle s'imaginait pas vouloir rencontrer quelqu'un, quoi. Et puis le personnage de Jonathan arrive et tout vacille.
Tout vacille. Il y a un personnage important aussi dans ton intrigue, Flore, avec le personnage d'Oriane, sa meilleure amie qui est jouée par Annie Bimok aussi, qui va être celle qui va éclairer un peu les choses, qui va faire un peu l'intermédiaire entre le personnage de Jonathan et Oriane.
Oui, quelque part, elle va au début penser que sa meilleure amie l'a trahie, en fait. Ça va être vu qu'elle va faire quelques petites choses dans son dos pour essayer d'enquêter sur le mari d'Oriane. Elle va même être prise aussi dans le jeu de Jonathan, puisqu'elle va quand même faire interner sa meilleure amie Rani, enfin, je veux dire,
parce que même elle à un moment donné croit évidemment, ouais. Jonathan
y croit, mais bien heureusement elle va l'aider ensuite à s'en défaire aussi, voilà. Mais c'est une super comédienne, Rani, c'était un bonheur de tourner avec elle.
Il y a eu une belle rencontre, c'est vraiment l'histoire de quatre femmes qui vont se réunir pour faire tomber cet arnaqueur, et une rencontre exceptionnelle entre quatre comédiennes incroyables, que ce soit Elena, Odile, toi et Flore, pour le coup. Toutes les quatre, comment se sont passées vos scènes ensemble? Comment s'est passée votre rencontre, vos lectures peut-être aussi en amont?
Moi, j'aurais aimé qu'il y ait encore plus de scènes avec les filles, quoi, parce que c'est vrai que j'arrive un peu au milieu de l'intrigue.
À la fin de l'épisode 1, voilà, pour situer un peu à ceux qui vont regarder demain.
Oui, on comprend, en fait, tout le premier épisode présente les personnages, en fait. J'aime bien d'ailleurs ce procédé de mettre le nom de la victime comme ça, en gros, en blanc sur noir. Et j'arrive en dernier. Bon, bah, je crois qu'à la base, on peut pas s'imaginer que je vais être victime de ce mec-là, parce que je suis juste en train de chanter. Il a emmené sa chérie voir sa chanteuse préférée. Mais c'est marrant parce que Jonathan joue ça très bien. Dans son regard, on sent qu'il est happé par quelque chose. Moi, ce que je me suis dit à la lecture du scénario, c'est que tiens, elle, il y avait un truc différent, mais je savais pas encore ce qui allait se passer par la suite. Bon, il essaie quand même de l'arnaquer, puisque comme elle va divorcer de son mari, qui est richissime grâce à elle, il a des propriétés partout, bon bref, je pense qu'elle risque de toucher un beau pactole. Donc,
Il
voit toujours une opportunité dans chaque nouveau plan, on va dire.
On n'a pas fait de lecture, donc on ne se connaissait pas encore avant de tourner notre première scène. Et ce qui a été assez marrant, c'est qu'on a tourné notre première scène à quatre au tout début du tournage, on se connaissait pas, et donc du coup on a tourné une scène de la fin du troisième épisode en premier, et on s'est retrouvés toutes les quatre dans la scène à boire un verre ensemble, et en fait le contact est passé tout de suite et les liens se sont créés, et du coup après on avait cette image là en tête de notre amitié qui était naissante sur le tournage pour tout la continuité du tournage ensuite, en fait. Je pense que c'est comme ça que nos liens sont créés. Ça a été assez cool qu'ils aient mis cette scène en début parce qu'on n'avait pas du tout eu le temps de faire de lecture à quatre ensemble avant. On se connaissait pas.
Ça vous a permis tout de suite de faire connaissance, ouais. Justement. En tout cas, ne ratez pas cette mini-série vraiment demain sur M6. Vous allez passer un super moment. Vous allez être pris justement dans les filets du personnage de Jonathan. J'espère vous aussi, jusqu'à la fin. On va découvrir évidemment ces 4 fois 52 minutes dont vous aurez le droit aux deux seulement mardi. Et je vous souhaite bon courage pour attendre, parce que vous allez avoir du mal à attendre la suite. Mais ce qui est bien, c'est que la suite, vous l'avez déjà sur Salto. Voilà, pour ceux qui sont impatients. Merci à toutes les deux. On termine juste par vos projets. Pour terminer, il y a des projets musique, peut-être Elodie, d'autres projets cinéma, télé.
Musique, je reviens d'une tournée aux États-Unis avec Nouvelle Vague. On continue avec une tournée dans les pays de l'Est. C'est un groupe avec lequel je tourne depuis 10 ans et avec qui je m'entends très bien et j'adore. J'adore tourner avec eux. Bref, je prépare mon 5e album avec Samy Osta, qui est un réalisateur incroyable, qui a travaillé avec Fuchs Atherton, Juliette Armanet, La Femme, et puis bah avec moi aussi, tant qu'à faire. Et avec qui je m'amuse beaucoup à créer ce prochain album. Et le vrai gros truc qui arrive, c'est que je sors un duo avec un artiste qui s'appelle Epsilon. C'est une chanson en anglais qui s'appelle Whatever. C'est un duo. J'espère que la chanson trouvera son public, comme la série.
Bah, écoute, tu sais pas, on va te faire ce cadeau-là. On va terminer avec cette chanson-là, cette émission. Et Flore, les projets?
Moi, je viens de terminer un téléfilm réalisé par Philippe Dajou avec Aurélien Vic et Lola Devers. Voilà, un policier. Ouais,
c'était bien entouré.
J'étais très bien entourée. Et je repars sur un unitaire avec Nicolas Gobbe et Marie-Christine Barrault.
Toujours aussi bien entourée.
Ouais, donc je suis ravie. Non, tout va bien, c'est cool. Bon,
super, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Elodie Frégé en duo avec Epsilon. C'est maintenant, on écoute pour terminer cette spéciale L'Homme de nos vies. C'est demain sur M6. À très vite, les filles.
Merci.
Bye bye.
you do.
Whatever I kiss,
whatever you miss,
whatever I dream,
whatever you hope,
whatever I love,
whatever you choose.
Walk on this endless road. Where is my mind? Where is my mind? Walk on this endless road. What will I find? What will we find?
Whatever I give,
whatever you get,
whatever I try,
whatever you like,
whatever I win,
whatever you lose,
whatever I sing,
whatever the truth. Walk on this endless road. Where is my mind? Where is my mind? Walk on this endless road. What will I find? What will we find? Walk on this endless road. Where is my mind? Where is my mind? Walk on.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, encore un bon mois avant l'arrivée de Noël et notre coup de cœur ciné cette semaine va être consacré au film Le Défi de Noël, un vrai conte de Noël réalisé par Florian Essig qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Florian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu es venu très bien accompagné de ta comédienne principale qui joue le rôle principal, celui d'Ashley. C'est Aurore Planas qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous également une nouvelle fois. Patrick Préjean, qui est un des habitués aussi de l'émission. Bonjour Patrick et merci d'être là.
Bonjour, merci de me parler.
Alors, moi je suis très heureux de vous avoir parce que ça fait du bien en ce moment, on en a besoin. Et puis un conte de Noël, mais où est venue cette idée folle, mon cher Florian, de vouloir nous offrir ce beau conte de Noël à un mois des festivités, là maintenant?
Je crois que depuis quelques années, on est un petit peu dans un climat compliqué. Donc j'ai voulu faire un film avec un peu de légèreté, avec un peu de magie, avec un peu de malice aussi, de féerie. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire un film de Noël? Alors après, je suis parti sur le thème du foot féminin parce que ça fait des années que je milite pour qu'il y ait plus de sport féminin, que ce soit dans les médias ou dans la fiction. Et j'ai la chance de m'occuper de basketteuses et de footballeuses professionnelles en préparation mentale. Et j'ai trouvé intéressant de partir d'une sportive avec les problèmes qu'elle peut rencontrer dans une carrière.
Et alors là, évidemment, elle était en lice pour l'instant présent ton précédent film. Ça ne s'est pas fait. Et alors là, tu t'es bien rattrapé puisque Aurore Planas fait son arrivée dans ce film dans le rôle d'Ashley Leroy, qui est une jeune footballeuse, on va dire, qui est un peu en descente à ce moment-là. Et son club veut la vendre et il va y avoir la magie de Noël qui va opérer évidemment à travers ce conte, à travers ces rencontres aussi qui vont se passer. Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans le scénario, Aurore, quand tu l'as lu?
En premier lieu, je dirais le personnage de Ashley, le fait que ce soit
une sportive de haut niveau, une footballeuse qui a tout gagné. Ça me permet de toucher du doigt une vie que j'aurais jamais eu autrement. Donc moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je vais être comédienne. donc ça m'a vachement plu, ce rôle en particulier. Et l'univers de Noël, c'est quelque chose qui voilà, fait appel à la grande enfant en moi. Donc pour ces deux raisons principales, ça m'a semblé évident.
Alors, il y a quelques moments où le personnage de Patrick Préjean va intervenir de façon assez mystérieuse. On comprendra pourquoi, on comprendra comment, on comprendra qui il est à la fin du film. C'est pour ça, faut rester jusqu'à la fin. Mon cher Patrick, c'est un personnage difficile finalement à décrire. Mais la seule chose qu'on peut dire, je crois que c'est un personnage que tu rêvais depuis longtemps qu'on t'offre.
Oui, c'est un personnage dont je ne rêvais plus. J'en ai rêvé souvent avant, et puis d'un seul coup, cette proposition de mon ami Florian est arrivée. Je me suis dit, tiens, oh là là, celui-là, je l'ai pas joué. Alors j'ai sauté sur l'occasion, et c'est aussi une des premières fois où je ne peux pas dire grand-chose sur le personnage que j'interprète, parce qu'il est une des clés du dénouement du film. Donc, vous n'en saurez pas plus. Je vous demande simplement de venir voir le film, sans quoi vous serez battu.
Par le personnage, vous verrez. Non. Vous pourriez être puni par le personnage, on ne vous dit pas comment, hein, mais vous verrez. Voilà, ça peut avoir des conséquences, on ne sait jamais. Florian, tu as trouvé Aurore comment sur l'instant présent où vous étiez rencontrés? Qu'est-ce qui t'a fait te rappeler qu'Aurore pouvait être ton personnage idéal, peut-être, pour incarner Ashley?
Bah, Aurore, sur le casting de l'instant présent, faisait déjà partie des
de la shortlist, comme on dit.
De la shortlist, comme on dit dans le sport, exactement. De la shortlist. Et quand j'ai écrit ce film, je me suis rappelé d'elle, j'ai revu ses essais, et si j'avais pas de doute sur le jeu, il fallait quand même une comédienne qui corresponde physiquement, fallait qu'elle ait le côté athlétique de la sportive de haut niveau, et Aurore correspondait parfaitement dans le jeu et physiquement.
On va écouter la bande-annonce, ça s'appelle Le Défi de Noël, ça vient juste de sortir en national depuis mercredi dernier, vous allez le retrouver dans notre région un petit peu partout entre cette semaine et la semaine prochaine également au cinéma. C'est le film qu'on vous conseille à maintenant un mois des festivités de Noël.
J'ai un club à sauver.
Je suis plus bonne à rien, coach. Comment tu veux que ça s'arrange? Sur le terrain, je crée aucune différence.
Je pense que le moment est venu. Il est temps pour toi d'aller faire un tour là-bas.
La vie, elle donne tous les jours. Elle reprend parfois. Mais même dans l'obscurité, il y a toujours des choses positives à trouver.
Vous êtes curé ?
Non, juste vieux.
Le Défi de Noël, c'est notre coup de cœur ciné aujourd'hui en ce 21 novembre. Merci d'être avec nous tous les trois. Florian Essig, Patrick Préjean et Aurore Planas sont avec nous. Alors, c'est un tournage qui a eu lieu entre Guingamp et la Haute-Savoie. Un grand écart entre les deux, puisque tu y joues le personnage d'Hugo, Florian, qui est un peu planqué dans ces montagnes, un peu ruste aussi, et qui va voir l'arrivée d'Ashley, on va dire, de pas un très bon œil au départ.
Non, effectivement, c'est un personnage qui n'aime pas être dérangé dans sa vie. Et là, alors peut-on parler de dérangement quand on voit Ashley arriver? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va perturber son quotidien et ça va pas lui faire plaisir tout de suite. Il va falloir gratter un peu pour voir ce qu'il y a en dessous.
Comment tu le définirais, toi, Hugo?
Je dirais que c'est un homme mystérieux, certainement qui a enduré quelques épreuves dans sa vie et qui, plutôt que de les affronter, a préféré se retirer. Je ne sais pour quelle raison, mais en tout cas, préfère rester seul, loin de tout.
Patrick, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, mais j'ai oublié si je voulais rajouter.
Je voyais que tu étais parti. J'ai vu que tu étais parti. En attendant, Aurore va nous dire un peu, Ashley, vu par Aurore Planas, comment tu as défini, toi, Ashley?
Ashley, pour moi, c'est une compétitrice. C'est quelqu'un de déterminé qui fait beaucoup preuve d'abnégation. Autant de qualités dont je manque. Donc, voilà, je suis assez fascinée, en vérité, de ce genre de tempérament, de ce genre de personnalité. Ça m'a toujours fascinée, les gens qui ont cette capacité à avoir un objectif et à ne jamais en dévier. Après, malgré toutes ces qualités, selon moi, c'est des qualités, elle est quand même complètement paumée, hein, parce qu'elle ne manque pas de cette détermination, mais ça ne marche plus. Donc, il y a aussi...
Voilà. Rallumer l'étincelle.
Voilà,
Exactement. Donc ça ne fait pas tout, finalement.
Alors, on va comprendre évidemment plein de choses tout au long du film. C'est ce qu'on disait, Patrick. On peut pas en dire beaucoup sur ton personnage, mais tu t'es amusé beaucoup.
Vous parliez du grand écart quand vous parliez des lieux géographiques de tournage entre la Bretagne et les Hautes-Alpes. Moi, le grand écart, il est entre le personnage que m'a donné à interpréter Florian et ceux que j'ai déjà joué jusqu'à présent. Et c'est pas rien. Mais je me suis bien régalé. Bien régalé parce que les gens comprendront pourquoi on peut prendre beaucoup de plaisir à jouer ce personnage. Les gens qui ont gardé justement de l'enfance et de la magie de Noël en eux. Et je leur souhaite de garder cette magie parce que c'est très important toute sa vie de garder la magie de Noël.
Alors, il faut dire que ce film a été tourné en plein Covid, alors c'est évidemment pas évident de se retrouver avec un tournage. Derrière les caméras, il y a souvent 40-50 personnes qui agissent dans l'ombre, que ça soit au son, à la lumière, etc. Et aujourd'hui, du coup, il y a des gens qui font un clin d'œil dans ce film, qui avaient des rôles plus importants de prévu. Ça sera partie remise, j'espère, en tout cas, sur un autre film pour toi, Florian. Mais aujourd'hui, Jean-Marc Généreux et Corinne Nemec, quand même, c'est dingue, ça.
Oui, ça c'est la. Il y a toujours. J'essaye toujours d'avoir des belles surprises dans mes films, mais pas forcément pour moi, même si j'adore. Mais je trouve que c'est important. Le public aime toujours. Moi, en tout cas, en tant que spectateur, j'aime bien voir des gens ou revoir des gens auxquels je ne m'attendais pas. Et c'est vrai que Corinne Nemec, alias Parker Lewis.
Eh oui.
Voilà.
Fan averti.
Exactement, qui est également dans Stargate. Bah oui, c'est la belle histoire. Alors après, c'est vrai qu'il a pas pu venir tourner en France à cause du Covid, mais on a réussi à trouver un moyen pour qu'il soit dans le film. Et c'est toujours sympa. Et puis quand un Jean-Marc Généreux, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Dès que je lui ai proposé de faire cette apparition dans le film, il m'a dit oui tout de suite. C'est un grand fou, Jean-Marc. Donc, comme tout le monde le sait, il achète tout.
Et puis il y a aussi Alexandre Debanne, qui est remarquable et qui m'a surpris très agréablement.
Super comédien, vous allez voir Alexandre Debanne, en plus un grand plaisir de le retrouver aussi dans ce film. Souvent, entre ce qu'on tourne et ce qu'on voit la première fois sur grand écran, il y a une réécriture un peu, parce que le montage c'est souvent un deuxième tournage, en quelque sorte, quand on monte un film. Aurore, comment t'as réagi quand tu as vu le film monter la première fois sur un grand écran? Qu'est-ce que tu t'es dit?
J'étais assez fascinée, j'ai adoré le film. Après, je connaissais déjà toute l'histoire. Alors, j'ai pas eu de surprise dans le sens où pour moi, c'était la...
Fidèle ?
Oui, c'est parfaitement fidèle à ce que je m'étais imaginé. Donc, mais ouais, j'ai beaucoup aimé, oui.
Patrick ?
Est-ce que tu t'es laissé aller à l'histoire et rentrer dedans ? Alors, c'est gagné. Quand on oublie qu'on est professionnel et qu'on suit les personnages, c'est gagné. On y croit.
Alors toi en plus Patrick, il y a quand même pour la petite histoire, tu n'avais pas vu le film monter ni sur un grand écran et t'as pris le train de Paris pour venir voir le film à Saintes avec des spectateurs dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine. Mon cher Patrick, faut le faire.
Faut le faire quand même. Je l'ai fait.
Bon alors qu'est-ce que tu t'es dit pendant cette projection ?
Je suis rentré dans, j'ai été ému, j'ai ressenti le tendresse en même temps que les personnages. J'ai ressenti leur angoisse aussi, et puis toute une kyrielle de sentiments, de l'humour par moments, dans certaines scènes, qui permettent d'éviter le pathos aussi, parce que ça c'est... Et voilà.
Bon, il y a plein de belles choses, en tout cas dans ce film, il y a du conte de Noël, il y a du sport... Il y a du romantisme. Alors voilà, pour aller voir le défi de Noël, c'est simple. Si vous avez envie de savoir qui est ce personnage mystérieux que joue Patrick Préjean, est-ce que vous avez envie de savoir si Hugo et Ashley, peut-être une petite histoire pourrait se nouer entre les deux, ou peut-être une grande histoire, on ne sait pas. Eh bien, il faut aller voir le défi de Noël et c'est en ce moment au cinéma. Merci infiniment à tous les trois d'être venus nous voir.
Merci beaucoup et à très vite parce que c'est toujours un plaisir de venir faire cette belle émission.
Merci beaucoup Florian, merci Aurore et merci Patrick, à très bientôt. Et on retermine avec un petit extrait, à très vite.
Merci.
Merci.
Je cherche le chalet sur le coup, vous m'entendez?
Je suis Ashley Leroy.
Désolé, j'ai une emprise. Les gens qui viennent ici mettent la main à la pâte.
Vous êtes réveillé?
Ça se mérite de découvrir ce lieu.
C'est quoi votre métier au juste ? Le coach, pourquoi il m'a envoyé ici ?
Quand tout s'effondre autour de vous, c'est l'occasion de prendre de nouvelles directions. Un nouveau départ.
Je sais que tu es vendeur pour le roi et ça m'intéresse.
I heard you're taking care of little Leroy.
Allez, 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 allez !
Débarrassez-vous de vos préjugés et arrêtez d'avoir peur.
Quand on y croit, la magie de Noël, ça existe finalement.
Et dans un instant, la fin de Chute, on écoute la télé avec Gad Elmaleh. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chute, on écoute la télé.
Une violente envie de descente lorsque ton bras se s'égare. Je le ferai point, enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça, Una. Car je suis fou de toi, Una. Quand tu ne m'appartiens pas. Attache les bras. Quand je fais sautiller sa frange, ses cris se tirent dans les graves. Quand le voyeur en redemande, moi je ne veux que Una. Le plus belle des plus belles jambes et de la place pour trois. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça, Una. Dis-moi. Dis-moi. Non, je ne craque. Quand tu ne m'appartiens pas.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui consacré à Reste un peu. Le film est sorti mercredi dernier dans les salles. Quel bonheur de recevoir aujourd'hui avec nous Gad Elmaleh qui est notre invité. Bonjour Gad.
Bonjour, normalement il y a des applaudissements là, non ?
Oui, c'est vrai, bah oui. Bon, il va y en avoir des applaudissements, moi je le sens parce que ce film, on a eu l'occasion nous de le voir maintenant il y a quelques semaines. Il a été diffusé au Festival du film d'Angoulême, il a été diffusé la semaine dernière au Festival de Sarlat. C'est la consécration, il a fait la tournée festival, une tournée dans toute la France d'avant-première. Où je crois le film a reçu un accueil incroyable.
Oui, d'abord c'est la première fois que je fais un film qui fait autant de festivals, c'est-à-dire que ce que raconte le film et le genre et la méthode et la facture du film a permis d'aller à la rencontre du public des festivals, parce que c'est la première fois que je faisais un film sur un sujet au-delà d'être sérieux, personnel, même si c'est une comédie, il y a de l'humour, mais c'est un film très très intime et ça permet dans les festivals de créer en tout cas du dialogue et tout, donc je suis super content. Et les réactions et les discussions, c'est un sujet aussi délicat, épineux, touchy, comme on dit, qu'est la religion. Ça crée des débats et des discussions vraiment, vraiment, vraiment intéressantes.
C'est l'impression que ça m'a donné, moi aussi, quand je l'ai vu. C'est certainement ton film le plus personnel, que ce soit en tant que réalisateur ou acteur.
Ah, totalement, ouais. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait quelque chose d'aussi perso en tant qu'acteur. Alors en ce moment, on me parle du jeu, mais moi je n'ai pas joué dans ce film en fait. J'ai été vraiment habité par le sujet. En étant réalisateur et auteur du film, j'ai simplement porté le sujet avec le personnage que je joue, qui est moi. Donc c'est un peu comme on est à la limite du docu, tu vois, parce que il y a c'est mes vrais parents qui jouent mes parents, c'est moi je joue
ta sœur,
voilà, moi je joue moi-même, le prêtre c'est un vrai prêtre, le rabbin c'est un vrai rabbin, c'est, alors il y a que des donc c'est un peu, on est à la limite du documentaire et en même temps non, c'est une fiction, c'est bien un film basé sur une histoire vraie en partie, il y a des choses vraies, des choses pas vraies, mais je dirais pas lesquelles, mais le jeu en tout cas, l'aspect authentique du film, il vient du fait qu'on sait, même le spectateur sait que c'est ma vraie famille, donc c'est assez étonnant.
C'est un peu une introspection. de Gad Elmaleh, ce film, hein, totalement. Il revient, il est un peu bousculé par la vie, par ce qui se passe, par tout ça, et se pose beaucoup de questions sur la religion, sur plein de choses. Et c'est vrai que c'est là que démarre cette introspection qu'il va faire en compagnie de sa famille, en quelque sorte.
En fait, c'est un moment de vie, c'est un moment où il se remet en question, où il, voilà, il cherche du sens, il cherche, c'est une quête en fait. Peut-être que j'aurais pas pu faire ce film il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Après 50 ans, je pense que tu te poses pas les mêmes questions. Pas, pas tout le monde, hein. Il y en a qui se posent pas de questions, et tant mieux pour eux, mais moi non, à 50 balais, j'ai commencé vraiment à me dire, oh là là, où vais-je? Qu'est-ce qui se passe?
À quel moment t'as eu envie de, justement, de raconter ça, d'écrire? Quel était le déclic?
Je crois que la religion, la foi, c'est un sujet qui m'a toujours habité et qui m'a toujours animé et qui a provoqué beaucoup de curiosité chez moi. Mais pas uniquement la mienne, ou ma foi, ou ma confession, ou mon identité, c'est surtout la curiosité, quoi. Étant gamin, je voulais comprendre comment les chrétiens priaient, c'est quoi cette église, c'est quoi cette mosquée, comment les gens se réunissent et prient le même Dieu qui est le même Dieu. Donc j'avais beaucoup de questionnements sur la religion. Comme à peu près tous les parents du monde, bah, mes parents ils me disaient pas trop les choses, ils m'expliquaient pas trop les choses malheureusement. Donc j'ai gardé toujours cette curiosité et toujours une envie de dialogue qui s'est transformée. En fait, en gros, parler de religion, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tabou. Parce que ça crée des crispations. Et moi, je voulais aller au-delà de ça. Je me suis dit, je m'en fous, moi, j'ai envie de parler de religion. Dans ma vie, j'aime parler de religion. Au cinéma, je vais parler de religion. Et je pense que si on le fait avec de la lumière, si on le fait avec de l'échange, si on le fait avec de la tolérance, de la fraternité, de l'écoute, pas être d'accord. Hein. Moi, c'est pas grave de pas être d'accord. Mais au moins qu'on se parle. Et le problème en France, c'est que les communautés ne se connaissent pas. Et on parle de vivre ensemble. C'est joli comme concept, hein, ça sonne bien. Mais le vivre ensemble, il faudrait que les communautés aillent dans les lieux de culte les uns des autres, s'invitent les uns chez les autres, puissent échanger. On ne peut pas rester dans notre coin avec un repli sur soi, pratiquer notre religion, notre culte, notre foi, quelle qu'elle soit, hein, et prétendre être dans le vivre ensemble. C'est pas vrai.
C'est pas un film, je pense, que tu aurais pu faire avec des comédiens peut-être aussi facilement et aussi naturellement que là, tu as pu le faire avec tes parents, avec ta sœur, avec justement des gens vrais.
Bah, c'est une bonne observation dans le sens où... quand je me suis projeté en train de le faire éventuellement avec des acteurs, tout de suite je me suis dit, oula, il va y avoir une distance, et puis on va trouver ça un petit peu bizarre tout à coup, ces gens qui parlent de religion de manière assez quotidienne, assez familiale, assez... Et j'aurais pas eu le naturel, parce que mes parents, il faut savoir qu'ils n'ont pas eu une ligne de dialogue à préparer ou à apprendre. Ils n'ont pas lu le scénario, ils n'ont rien su. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, s'ils l'avaient lu, ils n'auraient pas fait le film.
Et ta mère l'a découvert, je crois, sur grand écran pour la première fois. Hein. Mais ne savait pas ce qui a tourné, en fait, ce qui se passait.
Ma mère, qui est un jeune espoir du cinéma français, savait absolument pas où elle allait, ce qu'elle faisait, quel était le sujet du film. Enfin, elle s'en doutait vaguement, parce que quand même, ils ont touché à la statuette de la Vierge Marie, ils ont vu une église, ils savaient que ça tournait autour de la religion. Et en fait, c'est ça qui a été très, 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 très excitant pour moi. C'est de les mettre en scène avec... beaucoup d'amour et beaucoup de tension aussi, comme dans une famille. C'est-à-dire, diriger ses parents, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que c'est bon.
On va faire un jeu de mots. Là, maintenant, on va lancer la bande-annonce ensemble. Et tu restes un peu?
Oh, je reste autant de temps que tu veux. Mais je reste un peu.
À tout de suite.
J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser.
T'es pas sérieux, là?
Tu veux pas te convertir au catholicisme?
Mais c'est quoi, ça?
J'ai trouvé dans la valise de Gad.
Touche pas avec le doigt.
Tu changes de Dieu. Change tes parents. Fais-toi adopter.
On n'a pas envie de te perdre.
Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie.
Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix.
C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils.
Pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs-là? Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu te tapes une petite nana très haute, et tu arrêtes de nous emmerder.
La maison juive, tu peux chercher la sortie. Personne l'a jamais trouvée.
Ça va?
Je suis en train de répéter un truc que je me prépare, en fait.
Mais il faut me sortir. C'est une compétition d'apnée.
Reste un peu, c'est le nouveau film de Gad Elmaleh que vous allez pouvoir découvrir déjà au cinéma depuis mercredi dernier. 5 jours qu'il est en salle, qui appartient au public. Quand on fait un film aussi personnel, j'imagine l'appréhension chez toi de le délivrer comme ça au public, de la façon où il va le recevoir, de la façon où on va percevoir aussi ce film.
Les premières projections ont été les plus dures. Maintenant, ça va parce que d'abord il est en salle et puis le public l'a rencontré. Et puis, comme vous avez dit, il m'appartient plus. Mais moi, j'ai un parcours et je viens de l'humour, je viens du rire. Et donc, j'ai une forme de réflexe qui est que Je suis rassuré et apaisé quand j'entends des rires. Certes, le film n'est pas qu'une comédie ou un film comique. Il invite à la réflexion, au dialogue, à l'introspection, mais il y a des moments et des rendez-vous de rire. Et j'ai développé comme réflexe au fil des ans que dès que j'entends un rire, ça me rassure. Et moi, je les ai entendus les rires dans les salles. Je me suis caché, comme beaucoup de réalisateurs font, dans le fond de la salle, dans le noir, et puis j'ai écouté les réactions des gens. Et d'entendre les rires, ça me réjouit, parce que c'est doublement satisfaisant, parce que dans mes spectacles ou sur un film comique, il y a, les rires sur des gags, mais là, il y a les rires sur les gags et il y a les rires sur la compréhension que sont ces gags. C'est une grande joie, quoi. C'est une grande satisfaction.
En tant que réalisateur, quand tu étais derrière la caméra, tu voyais, t'observais ce qui se passait ou tu revenais voir derrière le combo quand tu étais devant, évidemment, ce qui s'était passé. Il y a dû y avoir des moments de grâce pour toi.
Totalement. Alors, l'expression est toute trouvée pour la thématique de ce film. La grâce était là, mais d'ailleurs, c'est intéressant ce mot parce que la grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est ce qui nous échappe. J'ai toujours pensé que quand un acteur improvise, c'est la grâce, on ne sait pas d'où ça vient, c'est incroyable.
C'est inattendu, quoi.
C'est inattendu, on ne savait pas juste avant que ça allait arriver. Et en fait, il y a eu des moments émouvants surtout, mais qui sont des moments de grâce aussi, parce que c'est des moments hors contrôle. Quand tu joues avec des gens qui ne sont pas acteurs, ils ont des trucs tellement bouleversants. Alors parfois, ils sont à côté de la plaque, comme moi je peux l'être, ou je l'étais avant, mais et parfois, ils disent des choses. Ma mère, pendant le repas familial, dans une scène de dispute, qui improvise la réplique très très dure, où elle dit « Tu changes de Dieu, change de parent, fais-toi adopter. » C'est très fort, c'est très violent, c'est percutant. Mais au moment où elle dit ça, elle le pense, elle le ressent, elle me met un punch dans la gueule. Et ça, c'est parce que justement, elle a presque confondu la fiction et la réalité. Alors ça, oui, c'est un moment de grâce en tout cas.
Quelle a été justement sa réaction ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Quels ont été ses premiers mots quand tu as vu le film en premier ?
Ils l'ont vu plusieurs fois le film.
Mais la première fois, elle a bien dû avoir un petit retour en tant que maman.
Elle m'a dit un truc tellement drôle. Mais en même temps, je ne peux pas lui en vouloir. Je peux pas dire qu'elle est prétentieuse ou quoi. Mais parce qu'ils n'ont pas les codes. Je lui ai dit, tu t'es trouvé comment ? Elle m'a répondu, très agréablement surprise, d'elle-même.
C'est génial, ça, c'est le plus beau cadeau qu'elle peut te faire.
Mais oui, mais en même temps, je trouvais ça presque prétentieux. Très agréablement surprise en parlant d'elle-même. Ben, en même temps, c'est honnête. Peut-être qu'elle a aimé le montage, tout, l'assemblage des scènes, voilà.
Quelle a été ta plus belle scène pour toi, que t'aies vécue, que ce soit en tant qu'acteur ou réalisateur dans le film ?
Je crois que un des plus beaux plans qui me bouleverse encore maintenant, c'est l'image de mon père en dehors de l'église qui n'ose pas rentrer et en même temps qui est là par amour. Alors ça me bouleverse parce que ça raconte toute l'histoire de religion, ça raconte une volonté d'amour et de fraternité, parfois chez certaines personnes traditionnalistes qui est impossible, ça, une forme de vérité qui est là et on voit cet homme qui essaie de transmettre à son fils tout ce qu'il pouvait, puis ça marche pas comme il le voudrait, donc c'est un plan même pas une scène, c'est un plan qui m'a bouleversé.
Ouais, il donne presque l'impression d'avoir échoué. Dans ses yeux, on le voit très bien.
Complètement, et bizarrement, on m'en parle beaucoup de ce plan. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, parce que c'est juste une image, c'est pas grand-chose, mais ça raconte beaucoup de choses.
Gad, reste un peu, c'est mercredi, depuis mercredi dans les salles, c'est le film à ne pas rater en tout cas, on va terminer par tes projets, parce que je suis sûr qu'il y a déjà plein de choses, envie de te revoir sur scène aussi.
Ben, j'espère déjà que Reste un peu va rester beaucoup dans les salles. Et le projet pour l'instant, c'est le film. Je suis tellement dedans. Je suis tellement dans Reste un peu. Je suis tellement dans ce film perso. Je suis tellement dans ce film intime que j'ai du mal à imaginer autre chose. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte de refaire un film comme metteur en scène avec une méthode telle que je l'ai fait là, dans le sens petite équipe, réduite, rapide, efficace, petit budget, sujet fort. Voilà, et puis pour vous donner un petit scoop, mais un petit truc dont je suis super fier parce que c'est un genre qui est le genre aussi dans lequel j'étais beaucoup de films purement comiques. J'ai une ou deux scènes très 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 comiques dans le film de Philippe Lachaud qui est Alibi 2 et ça promet vraiment en termes de pure comédie, c'est très 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 fort ce qu'ils ont fait, donc je suis très très heureux d'être dedans.
Ça va être pour début 2023. Gad, reste un peu, c'est dans les salles. En tout cas, moi j'espère que c'est un film que vous aurez l'occasion d'aller voir en famille, chers spectateurs, parce qu'à l'approche des fêtes de Noël, en plus, de voir tous ces rassemblements familiaux et tout, la religion, tout ça mêlé un peu. Voilà, ça peut permettre en tout cas d'amener à la réflexion, la discussion, le dialogue dans les familles. Et ça, je trouve ça très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, merci à vous, à bientôt.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, on aura le grand plaisir de recevoir Alex Philippe pour sa fiction Handicops sur France.tv. On aura également l'honneur de recevoir José Garcia et Anne Leny pour la sortie du film Le Torrent. On recevra également Yannick Kergoat, qui est le réalisateur de La Très Grande Évasion, un documentaire qui sort également au cinéma. Beaucoup de surprises vous attendent en tout cas lundi prochain.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente sur mariemorin.fr.